France Info.
Et bienvenue dans Les Informés, l'émission de décryptage de l'actualité de France Info avec Renaud Dely. Bonjour Renaud.
Bonjour Sadia.
Et nos informés du jour, Isabelle Raymond, chef du service économie de France Info.
Bonjour.
Bonjour Isabelle. Gilles Morstein, éditorialiste politique à France Info Télé.
Bonjour Sadia.
Sur le canal 27. Bonjour Gilles. Renaud Dely, on commence tout de suite par ce tour de vis, évidemment, de l'assurance chômage à venir.
Et oui, Sadia, les caisses de l'État sont vides d'une part, le chômage repart à la hausse d'autre part. Deux raisons, donc, selon l'exécutif, de préconiser une nouvelle réforme de l'assurance chômage pour contribuer à résorber en partie les déficits publics records et puis pour inciter un peu plus les chômeurs à retourner vers l'emploi. Le Premier ministre Gabriel Attal a donc évoqué hier soir au journal de 20h de TF1 les trois paramètres sur lesquels l'exécutif pourrait jouer pour réformer l'assurance chômage en ne cachant pas sa préférence pour celui de la durée d'indemnisation, laquelle, rappelons-le, peut aller aujourd'hui jusqu'à 18 mois. Cette durée de 18 mois, le Premier ministre entend la réduire.
Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Ensuite, dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage.
C'est 6 mois aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est 6 mois sur les deux dernières années. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les deux précédentes.
Alors, cette nouvelle réforme de l'assurance chômage sera soumise à une négociation qui va s'ouvrir à l'issue de l'envoi d'une nouvelle lettre de cadrage à la ministre, donc Catherine Vautrin, que vous receviez il y a un instant. Est-ce que cette réforme peut être efficace, d'une part pour inciter davantage les chômeurs à retrouver un emploi, et puis d'autre part pour contribuer à résorber les déficits, ou est-ce que c'est un tour de vis injuste et qui n'aurait pas donc les effets escomptés par le gouvernement ?
Isabelle ?
Alors, il y a deux choses. Effectivement, la première chose, c'est que il y a cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qui est lancée, annoncée hier par Gabriel Attal, confirmée aujourd'hui par Catherine Vautrin, qui est chargée de la mettre en œuvre. Il faut des partenaires sociaux oui. pour négocier cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Ils sont encore en train de négocier sur l'emploi des seniors. Donc, ils vont tout juste sortir de cette négociation-là pour en entamer une nouvelle. On a reçu également Sophie Binet, tout à l'heure, secrétaire générale de la CGT, qui a dit qu'il fallait arrêter de stigmatiser les chômeurs. Donc déjà, elle voit pas trop l'intérêt de cette nouvelle réforme. Elle dit que c'est vraiment taper sur les chômeurs. Donc ça va être déjà compliqué.
Réduire l'indemnisation, la durée d'indemnisation, c'est en fait créer de la précarité chez les chômeurs et dans le monde du travail plus généralement, puisqu'on va créer des mini-jobs.
Et sachant que effectivement là-dessus, il n'y a pas du tout de consensus. Les économistes ne disent pas que réduire la durée d'indemnisation ou réduire les droits des chômeurs, durcir l'accès à l'assurance chômage, permet de retrouver plus facilement un emploi. Donc ça, c'est effectivement ce que dit le gouvernement. Il y a énormément d'économistes qui sont absolument pas d'accord avec ce constat-là. Donc déjà, il va falloir faire avec des partenaires sociaux qui n'ont pas très envie de négocier, sachant que le gouvernement, il a quand même, donc il dit qu'il veut négocier, mais vous avez rappelé les critères sur lesquels il veut jouer. La lettre de cadrage, elle va être quand même assez serrée. Donc
c'est possible. Il y a la durée d'indemnisation.
Il y a la durée d'indemnisation. Il y a le montant de l'indemnisation. Donc ça, Gabriel Attal a déjà dit que c'est à la base sa préférence. Le montant d'indemnisation ne bougera pas. Mais donc il y a aussi les conditions d'éligibilité qui peuvent bouger. Aujourd'hui, il faut avoir travaillé 6 mois pendant 2 ans. Gabriel Attal dit ça pourrait être 1 an et demi. Sophie Binet rappelait tout à l'heure que ça risquait d'avoir une incidence sur les jeunes en fait pour qui accèdent à l'assurance chômage. Ils vont devoir attendre plus longtemps. Donc, ça précarise effectivement les demandeurs d'emploi. C'est pas sûr que ça incite plus à retrouver un emploi, mais c'est un objectif. Il faut que le gouvernement annonce des réformes. Il y a eu la réforme des retraites. La deuxième réforme qui peut être annoncée dans les prochaines semaines, c'est l'assurance chômage. Il n'y a pas 50 réformes possibles structurelles, sachant qu'on a eu quand même des chiffres du déficit en début de semaine qui sont mauvais. 5,5 l'année dernière. Oui. Il fallait taper fort. Il fallait annoncer une réforme. Ce sera celle de l'assurance chômage.
Les informés, Renaud Dely, Sadia Brakia.
De retour sur le plateau des informés avec Isabelle Raymond, chef du service économie de France Info, avec Renaud Dely aussi et Gilles Bernstein, éditorialiste politique à France Info Télé. Il est question donc de réformer l'assurance chômage, mais on parle d'un régime excédentaire. Alors pourquoi réformer cette assurance chômage?
Oui, c'est vrai, le régime est excédentaire. Ils sont pas nombreux, les régimes publics, à être excédentaires. Celui-là l'est. Je crois, on dit beaucoup, enfin, les oppositions disent beaucoup que le gouvernement veut réduire l'indemnisation, changer la législation sur le chômage pour renflouer les caisses de l'État. Le gouvernement a cet objectif de renflouer les caisses de l'État. Je ne pense pas que ça soit la raison principale pour laquelle il s'attaque au régime. Emmanuel Macron est obsédé par la baisse du chômage. Il a été élu là-dessus. Il a dit qu'il quitterait l'Élysée en ayant rempli cet objectif de plein emploi. Ce qui l'obsède vraiment, c'est d'arriver au plein emploi. On considère, il y a un chiffre qui circule beaucoup dans la majorité, c'est de dire, après la perte d'emploi, dans les 4 premiers mois, c'est vrai qu'il y a des recherches d'emploi et beaucoup de gens retrouvent de l'emploi au cours des 4-5 premiers mois. Donc l'essentiel des gens cherchent. Et puis après, pendant de nombreux mois, on voit les recherches d'emploi diminuer jusqu'à 2 mois avant la fin des droits. Donc on dit dans la majorité, je dis pas que c'est mon raisonnement, hein, je vous dis ce qu'on dit dans la majorité, c'est que il y a certainement une durée pendant laquelle il y a les gens motivés et puis il y a un certain nombre de gens moins motivés qui cherchent moins, donc ils veulent réduire cette durée. Est-ce que ça sera efficace ou pas? Je n'en sais rien, je ne suis pas économiste, mais voilà, on considère dans la majorité que la réduction de la durée d'indemnisation peut être efficace.
Mais c'est ce que dit la majorité. Mais dans l'opposition, on dit, écoutez, il y a 40% de chômeurs qui perçoivent une indemnité chômage, mais il y a 60% qui n'en perçoivent pas du tout.
Et
donc, toucher aux paramètres, ça sert à quoi?
Voilà. Et on dit aussi que dans ce délai, c'est peut-être des gens qui ne trouvent pas un emploi à la hauteur de leur qualification et que s'il y a une reprise des recherches 2 mois avant les indemnisations, c'est des gens très formés qui acceptent un emploi très en dessous de leur qualification parce qu'ils ont besoin de manger. En tout cas, politiquement, le gouvernement veut absolument réduire le chômage et à mon avis c'est la raison pour laquelle il réforme le régime avant de faire des économies, même si évidemment ça fait des économies. Et c'est vrai qu'on n'a pas peur au gouvernement d'un mouvement social comme pour les retraites. Parce que pour les retraites, pour une raison, on considère que l'opinion considère que c'est un contrat social, vous travaillez, vous cotisez et vous pouvez être indemnisé, alors que finalement, c'est la même chose. Il n'y a pas la même
mobilisation
pas la même appréciation pour le chômage.
Et puis, évidemment, aussi dans la logique du gouvernement, une comparaison internationale, en tout cas à l'échelle européenne, qui entre en ligne de compte. On entend parfois la France a le système d'indemnisation du chômage le plus généreux en Europe. C'est pas le cas. Il y a des tas de systèmes extrêmement divers. Mais notre principal partenaire, c'est l'Allemagne, on le sait à tout point de vue, et d'abord sur le plan économique. Et si on regarde effectivement en Allemagne, la durée d'indemnisation de l'assurance chômage, c'est 12 mois, ce qui explique d'ailleurs en grande partie que Gabriel Attal envisage donc de ramener cette durée de 18 à 12 mois. Quant à la durée nécessaire d'activité de travail pour pouvoir toucher une allocation, en France, on le disait, c'est 6 mois sur les 2 dernières années, sur les 24 derniers mois. En Allemagne, également, c'est 12 mois. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en Allemagne, le taux de chômage qui remonte également est à 5,8% de la population active, contre 7,5% en France, et il remonte. Donc il y a évidemment cet argumentaire-là qui est développé aussi du côté de la majorité, mais je rejoins ce que disait à l'instant Isabelle Raymond d'une part et Gilles Bernstein d'autre part. C'est vrai qu'il n'y a pas de consensus entre les économistes sur les effets d'une réforme de l'assurance chômage, tant en termes de gains financiers pour résorber les déficits publics qu'en termes d'incitation au retour à l'emploi. Mais d'un point de vue politique, le fait de pointer en quelque sorte les chômeurs et en disant il y a de l'argent à aller récupérer là et puis il y a des incitations au retour au travail à essayer de mettre en œuvre, d'un point de vue politique, c'est plutôt potentiellement bénéfique pour le gouvernement, parce que il y a ce sentiment dans une large partie de l'opinion qu'effectivement il y a ceux qui cherchent du travail et ceux qui n'en cherchent pas, et on sait que d'autres responsables politiques avant ont joué sur ce clivage là dans l'opinion, donc d'un point de vue électoral. Et puis le dernier point, c'est que traditionnellement, un peu cyniquement ce que je dis, mais c'est pour essayer d'expliquer un peu la situation, traditionnellement les chômeurs sont assez peu représentés et assez peu organisés pour manifester eux-mêmes donc leurs revendications, y compris d'ailleurs les syndicats ont souvent eu du mal à prendre en charge les revendications des chômeurs. Et un tout dernier point, je suis pas persuadé aussi que ces annonces-là ne s'adressent qu'aux Français, qu'à l'opinion, etc., mais aussi aux agences de notation, évidemment. On a vu hier que l'une d'entre elles, Moody's, doute déjà très fortement, et c'est un euphémisme, de la capacité de la France à ramener les déficits publics sous le seuil des 3% en 2027, et Moody's explique que c'est intenable, en quelque sorte, comme objectif, qu'une éventuelle dégradation de la note financière de la France est dans l'air d'ici quelques semaines. Donc je pense que cette annonce-là, c'est aussi un message à l'adresse des agences de notation financière.
Isabelle, c'est un message qui était adressé effectivement à la fois à Bruxelles aussi, à la Commission européenne, puisqu'on voit que le déficit donc est bien au-dessus de ce qui était prévu et ce qui était dans le projet de loi de finances. Donc il va falloir revoir les chiffres du déficit pour 2024. Ce sera dans le cadre du pacte de stabilité qui sera envoyé à Bruxelles d'ici le mois d'avril. Et il n'y a pas d'autre façon de faire aujourd'hui. Il faut effectivement s'adresser à Bruxelles. Il faut s'adresser aux agences de notation qui vont commencer à se prononcer à partir de la fin avril, de début mai. Et il ne peut pas y avoir de projet de loi de finances rectificative avant les élections européenne. Et donc, dans ce cadre-là, il faut envoyer un message fort. Le message, c'est une réforme structurelle. Les retraites, c'est fait. L'assurance chômage, ça va être fait. C'est le message qui est effectivement envoyé, qui est envoyé à la fois à Bruxelles et aux agences de notation. Et comme vous l'avez tous les deux très bien rappelé, ça ne mobilise pas l'assurance chômage. Ouais. On n'a jamais vu les gens descendre dans la rue pour manifester, pour préserver le droit des chômeurs, alors que ce sont quand même les cotisations des salariés, ce sont des cotisations patronales élevées, c'est quand même 4% de cotisations, donc c'est quand même pas rien. Il y a aussi une part de CSG, mais c'est quelque chose que les Français finalement conçoivent mal, appréhendent mal, et ils se mobilisent très peu sur ce sujet.
Le travail doit toujours mieux payer que l'inactivité, c'est ce que dit Gabriel Attal, le Premier ministre. En fait, l'objectif de pointer du doigt les inactifs, c'est aussi dénoncer implicitement l'assistanat, Gilles ?
Exactement. Je parlais à un sondeur hier pour savoir comment c'était perçu dans la population. Il me dit il y a vraiment une différence dans la population entre la solidarité et l'assistanat. La solidarité, c'est oui. Il ne faut pas laisser croire que les Français ne sont pas d'accord avec la solidarité. La retraite, c'est de la solidarité. Ils sont d'accord. Mais l'idée selon laquelle il y a de l'assistanat et des gens ne cherchent pas de boulot est, me disait-il, infiniment supérieure à la réalité. Les Français ont l'impression que beaucoup de gens profitent du système. Il y en a. Mais l'impression est certainement supérieure à la réalité. Et ça, tous les sondeurs vous disent les Français ne supportent plus. Parce que ce sont des abus qu'on connaît tous. C'est-à-dire tout le monde a un beau-frère, un neveu, etc., qui a dit « bah oui, moi j'ai profité 3 mois de plus du chômage ». Et donc de cette fréquentation, on a l'impression que c'est extrêmement général. Et ce monsieur me disait finalement, celui qui ne cherche pas de boulot pendant 3 mois, ça choque plus dans l'opinion que Bernard Arnault qui ne paye pas d'impôts. Parce que, voilà, c'est la fraude de votre voisin auquel on s'identifie, alors que la fraude des très hauts revenus, c'est quelque chose qui est dans un domaine totalement inaccessible. Donc oui, c'est quelque chose qui est prégnant dans l'opinion. Et alors, on peut dire que c'est du populisme sur lequel, d'une certaine manière, le gouvernement joue.
Juste sur la forme, Isabelle, on a entendu les syndicats sont vent debout contre cette volonté de réformer l'assurance chômage.
Le patronat n'est pas tellement pour non plus.
Bah alors, comment dire que
les partenaires sociaux.
On peut faire des négociations sans qu'il y ait personne autour de la table.
Non, mais il y aura une négociation, les partenaires
l'État
sociaux
peut reprendre ensuite,
sont responsables. Et derrière, le gouvernement peut reprendre la main. Après, on va voir. Est-ce que les partenaires sociaux ont intérêt ou pas à négocier, on verra.
Enfin, moi, j'ai entendu la CPME, ils sont pour la durée, ils sont contre la réduction du montant des indemnités.
Oui, ça ne devrait pas bouger, de toute
façon. Ça ne devrait pas bouger. Pour la durée, je les ai sentis plutôt d'accord avec Attal.
Et ils sont contre la reprise en main, donc c'est pour
ils sont
capables,
la reprise en main, évidemment.
Ils sont capables de se mettre autour d'une table.
Les informés, Renaud Dely, Salia Brakia.
Et les informés continuent avec Isabelle Raymond, chef du service économie de France Info, Gilles Bernstein, éditorialiste politique à France Info Télé, Canal 27. Et Renaud Dely, l'autre sujet d'actu de ces informés concerne ce proviseur d'un lycée parisien qui a décidé donc de démissionner face à des menaces. Le Premier ministre est intervenu.
Oui, le Premier ministre Gabriel Attal qui a reçu hier ce proviseur du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris. Ce proviseur qui était victime de menaces de mort depuis qu'il avait demandé à une élève d'ôter son voile à l'intérieur de l'établissement et qui a donc décidé de quitter ses fonctions. Gabriel Attal l'a reçu à Matignon et puis il a aussi annoncé hier soir sur TF1 qu'il entendait déposé plainte contre l'élève qui avait dénoncé l'attitude du proviseur.
J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires.
Alors la jeune femme en question avait évoqué des coups qui selon elle lui auraient été portés par le proviseur. Elle avait d'ailleurs porté plainte contre le proviseur, mais cette plainte a été classée sans suite. Et on l'entend, donc Gabriel Attal décide de porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre cette jeune femme. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que la laïcité, on le sait, est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et que le respect de la laïcité a contribué, y compris à définir son identité politique lors de son bref passage rue de Grenelle au ministère de l'Éducation nationale? Gabriel Attal a d'ailleurs rappelé hier soir lors de cette interview qu'il avait à l'époque interdit le port de l'abaya et du camis à l'intérieur des établissements scolaires. Et à qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'effectivement c'est pour manifester sa solidarité avec le monde enseignant comme il l'a dit, ou est-ce que, au-delà d'ailleurs, c'est une façon aussi de s'adresser à l'opinion et à l'ensemble des Français, donc avec ce dépôt de plainte?
Gilles?
Ça me coûte de le dire, mais je crois que Renaud a parfaitement raison.
Il arrive que vous soyez d'accord.
Voilà, et c'est du Attal pur et parfait. Gabriel Attal, en interdisant la baïa, avait aussi dit « Avec moi, c'est fini la politique du pas de vague ». Et hier, l'administration, alors est-ce que c'est la ministre, est-ce que c'est le recteur, a été pris quand même en flag de pas de vague. Parce que quand le proviseur a démissionné et qu'on a dit que c'était pour convenance personnelle, bah non.
Il n'a pas démissionné.
Non, il n'a pas démissionné, mais qu'il quittait son poste pour convenance personnelle. C'est pas pour convenance personnelle.
Je crois que c'est le rectorat qui diffuse cette explication.
Le rectorat, voilà. C'était pour, clairement, il a dit parce qu'il ne se sentait pas en sécurité. Et donc là-dessus, Gabriel Attal veut dire les choses. Et veut absolument. Alors, est-ce que c'est une reprise? Est-ce que c'est un avertissement à son administration? Oui, d'une certaine manière. C'est dire, on ne laisse rien passer, on ne fémise pas les choses et on les dit. Donc oui, c'est une réaffirmation de sa posture personnelle. Il dit, j'ai décidé de saisir la justice. On avait tous dit au moment de la nomination de Gabriel Attal que ce qui fonctionnait dans sa popularité, c'était qu'il était crédité de faire ce qu'il disait sur des choses. Je veux dire, quand on dit je vais réduire le chômage, c'est compliqué. Quand on dit il y aura pas d'abaya,
c'est plus concret.
Quand on dit il y aura pas d'abaya à l'école, c'est plus facile d'être suivi des faits. Bah là, c'est pareil. Il dit je vais porter plainte et je suis sûr que ça sera suivi des faits et que donc c'est encore une.
Mais concrètement, ça peut donner quoi? C'est juste un symbole?
Sur
porter plainte sur la jeune fille.
Oui, d'une certaine manière, c'est juste un symbole. Je ne sais pas, je n'ai pas la moindre idée de si elle sera condamnée, à quoi elle peut être condamnée. De toute façon, ça ne changera pas le cours de l'éducation d'un symbole. Oui, c'est le symbole de dire on ne laisse pas passer les atteintes et les entorses à la laïcité.
Isabelle?
C'est un symbole fort. Et ce qu'on voit quand même dans cette affaire, c'est que pour le coup, contrairement à ce qui s'était passé donc pour Samuel Paty, on voit une éducation nationale qui est derrière le proviseur, qui fait corps. Donc il y a eu un accompagnement juridique, il y a eu un soutien au proviseur, à l'établissement, etc. Ce qu'il n'y avait, donc,
Nicole Belloubet s'est déplacée aussi sur place.
Elle s'est déplacée sur place, il n'a donc pas démissionné, mais il est en réserve spéciale jusqu'à son départ à la retraite au mois de juillet. Mais on voit donc une éducation nationale qui a pris au sérieux tout ce qui s'est passé, ces menaces de mort, etc. Et du coup qui fait corps derrière, et on voit quand même que malheureusement ça ne suffit pas. Il finit par partir, il ne démissionne pas parce qu'il ne s'agit pas d'une démission, mais il finit par partir. Donc il y a quand même une sorte d'impuissance face à ces faits. Donc il y a la réaffirmation de la laïcité et le symbole est quand même assez fort. Donc on voit quand même l'évolution de l'éducation nationale depuis Samuel Paty, avec énormément de choses qui se mettent en place. Et finalement, ce constat... Oui. De demi-échec avec le proviseur qui finit par partir.
Je vous rejoins totalement là-dessus. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est une affaire qui est effectivement dramatique d'un point de vue symbolique, puisque malgré la mobilisation de l'État, malgré la protection qui avait été accordée à ce proviseur, etc., il a choisi donc de se mettre en retrait de ses fonctions jusqu'à son départ en retraite, et on peut tout à fait le comprendre. Il ne s'agit pas de juger le fait qu'il y ait effectivement de subir un tel harcèlement, en particulier numérique, et de telles menaces de mort le conduisent à prendre cette décision. C'est parfaitement respectable d'un point de vue humain, d'un point de vue individuel, mais ça illustre les failles du système, effectivement, de défense. Ensuite, je pense que cette plainte, mais vous l'avez dit, c'est extrêmement important d'un point de vue symbolique, mais c'est important aussi les symboles. Il faut rappeler aussi d'ailleurs que parmi ceux qui ont harcelé ce proviseur avec de nombreuses menaces de mort, certains individus ont déjà été interpellés et vont être jugés prochainement, en tout cas. Donc ça montre aussi que l'impunité n'existe pas. Et ça renvoie évidemment au drame qu'avait été l'assassinat de Samuel Paty, puisqu'il faut rappeler qu'à l'époque, lui aussi avait été victime d'abord de dénonciation dénonciation calomnieuse, de mensonge, et ensuite d'un emballement et d'un harcèlement médiatique qui a finalement abouti à son assassinat. Donc je pense que la réaction de l'État, aussi insuffisante soit-elle, en tout cas en termes d'effets, tente à essayer de montrer que la période a changé.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Isabelle Raymond, chef du service économie de France Info. Merci d'être passé, tout comme Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info Télé sur le canal 27. Donc, merci à tous les deux. Merci à vous aussi,
Renaud. Merci à vous, Sadia.
Les informés sont de retour ce soir à 20h avec Bérangère Bonte.